France Culture.
Regardez, ils lui ont crevé l'œil à lui. Ils ont transpercé son œil.
À qui ?
Le cochon. En bas. Regarde.
Nous nous délectons du spectacle de cochons rôtis à la broche ou sur les grilles de nos barbecues. Cochons que nos enfants chérissent dans les livres, les films ou sous forme de peluches.
C'est la famille Peppa Pig qu'ils ont tué.
Elle a dit que c'était la famille de Peppa Pig qui sont tués.
Mais non.
Nous donnons à nos animaux de compagnie des croquettes produites à partir de minerais de vache.
Est-ce que vous pourriez me dire ce qu'on voit là ?
Un cochon...
Nous enfermons nos rongeurs en cage et nos poissons rouges en bocal.
Qu'ils ont chasseurs ont tué pour en faire de la viande.
Mais nous offrons à nos chats et chiens, devenus membres de la famille, le confort d'un canapé ou d'un jardin.
Moi, ça me rend triste, ça, tu vois.
Nous choyons certains quand nous acceptons que d'autres vivent une vie qui n'en est pas une.
C'est pas grave,
mais
à dire.
Pourquoi ils ont tué les cochons ?
C'est pour les manger. Ça fait forcément de la peine, mais c'est comme ça.
Nous sommes choqués devant les cadavres de brebis dévorés par les ours et les loups, qu'alors nous piégeons et abattons.
C'est dommage. Quoi qu'on dise, ça sera toujours pareil. Malheureusement, on ne peut pas empêcher de tuer des bêtes pour en faire ça, voilà, pour les manger.
Ces mêmes brebis dont nous mangeons la chair et les agneaux.
Tu penses que c'est des chasseurs là, qui ont tué les cochons ?
Ça peut être des chasseurs ou des humains. Ou des humains qui ne sont pas des chasseurs.
Nous sommes dégoûtés et déconcertés lorsque nous apprenons un scandale sanitaire. Nos steaks de vaches contiennent en réalité des chevaux.
Oui.
Chevaux que nous ferrons, dont les morts abîment la bouche et les éperons leurs flancs s'ils ne nous obéissent pas. Et qui finiront pour la plupart à l'abattoir, une fois sortis du manège.
C'est agréable à voir. C'est la festivité, quoi.
Nous nous divertissons en allant voir les animaux en voie de disparition dans les zoos et dans les cirques. Nous appelons les uns nuisibles et les autres biodiversité.
Qu'est-ce qu'on voit ?
Qu'est-ce qu'on voit ? On voit des cochons transpercés de la bouche jusqu'au rectum par une broche qui tourne au feu de bois.
On voit bien qu'ils ont été vidés à l'intérieur.
Mais depuis les années 70, un mot vient donner une réalité à cette hiérarchie arbitraire. Le spécisme et son corollaire, l'antispécisme.
Ouais, respire le cochon. Le cochon, là, on dirait qu'il respire quand il bouge.
Notre monde est devenu un abattoir géant dans lequel 2050 milliards d'animaux terrestres et aquatiques sont tués chaque année, précipitant dans un même élan l'extinction des derniers animaux sauvages.
Oui.
Comment sommes-nous arrivés là ?
J'avais mangé un cochon mort, mais c'était un copain, un papa qui l'avait pris et du coup, on l'a mangé.
Dans la manade.
Dans la manade.
Pourquoi vous les prenez en photo ?
Ah, parce que j'adore le cochon, j'adore. J'adore la charcuterie, donc voilà. C'est des petits cochons de lait, là. Ils sont très bons. Tout est bon dans le cochon, comment dire.
Le monde après le spécisme. En finir avec l'oppression des animaux. Une série documentaire de Pauline Chanu, réalisée par Clémence Grosse.
Pour moi, tuer les animaux, c'est cruel.
Épisode 1, c'est... hiérarchiser les espèces, ouais, un système arbitraire.
Malheureusement, c'est la chaîne alimentaire. Donc, bah, c'est comme ça la vie. C'est comme ça.
En fait, je veux bien que vous disiez la liste des synonymes justement d'animal et d'humain et d'humanité et animalité. C'est vrai que c'est très implacable.
Les synonymes d'humanité, c'est altruisme, bienfaisance, bienveillance, bonté, charité, clémence, compassion, délicatesse, désintéressement, douceur, famille, générosité, homme, humain, humanitarisme, indulgence, mansuétude, miséricorde, monde, philanthropie, pitié, sensibilité, société, univers.
Marie-Claude Marcelier, chercheuse en paléogénétique.
Et donc, les synonymes d'animalité, c'est abrutissement, bassesse, bestialité, brutalité, barbarie, bas instinct, concupiscence, cruauté, dépravation, férocité, gloutonnerie, goujaterie, grossièreté, inhumanité, lubricité, sauvagerie, zoophilie. Et donc, animalité, c'est tout ce qui est socialement, moralement négatif. Et l'humanité, c'est l'inverse.
Déjà, la figure de l'animal en soi, c'est une construction, puisqu'il n'existe rien comme l'animal avec un grand A, mais bien des animaux.
Myriam Bahafou, philosophe et autrice.
Mais à travers cette construction, en fait, on va utiliser son existence uniquement pour définir une humanité qui serait juste oppositionnelle, en fait, à cet animal.
Dans des tas de documents, on va parler de l'homme et de l'animal. Donc là, c'est bien parce que c'est à la fois spéciste et sexiste, parce qu'on utilise l'homme, qui est un masculin générique, et l'animal, qui est une espèce d'abstraction dont on ne peut rien dire à part le fait que c'est mauvais. Cette fausse symétrie, l'humain et l'animal, c'est une manière de former artificiellement une opposition entre les humains et les autres animaux. Et cette opposition, elle n'est pas de nature biologique, elle est de nature purement sociale. En fait, les animaux, c'est une catégorie sociale. Dans notre civilisation, c'est la catégorie des êtres sensibles qui ont le moins de droits, voire pas du tout de droits, donc que l'on peut tuer, torturer, exploiter, avec très peu de limites.
Donc le spécisme, c'est la discrimination fondée sur l'appartenance d'espèces.
Sarah Zanaz, philosophe.
C'est le fait de faire des hiérarchies, notamment entre les animaux non humains et les animaux humains. Donc mettre les humains supérieurs sur un plan hiérarchique par rapport à tous les autres animaux. Mais c'est aussi faire des différences entre différents animaux. Par exemple, préférer les chats et les chiens aux vaches, aux cochons, aux poulets, aux poissons, aux insectes, etc. Ça aussi, c'est du spécisme. Donc le spécisme, pour le dire trop simplement, c'est vraiment cette tendance à hiérarchiser les animaux.
Donc le terme spéciste apparaît en 70 par un psychologue qui s'appelle Ryder.
Myriam Bahafou.
Et qui va en fait définir la façon dont les humains s'arrogent le droit de dominer toutes les autres espèces en vertu du fait qu'ils soient humains. Donc c'est-à-dire que c'est une domination d'espèces. Et en 70, Ryder, quand il forme ce terme-là, spécisme, la domination de l'espèce humaine sur les autres, il le forge en fait exactement sur le même modèle sémantique que le racisme ou le sexisme. Donc il va dire littéralement, le spécisme est à l'espèce ce que le racisme est à la race, ce que le sexisme est au sexe. Donc un critère arbitraire de domination envers des minorités. Donc toutes les discussions autour du spécisme dans l'émergence de l'éthique animale autour des années 70 va avoir pour but de démontrer en fait le caractère illogique, le caractère infondé en fait de cette domination. C'est-à-dire qu'il n'y aurait aucune raison de dominer quelqu'un en fonction de son espèce. Ce n'est pas un critère moralement pertinent, en fait.
Donc, comment est-ce qu'on sait qu'il existe ou à quoi on voit le spécisme? Comment il se manifeste dans la société?
Sarah Zanaz.
Il y a beaucoup de choses. Il y a évidemment l'industrie agroalimentaire. Entre 80 milliards d'animaux terrestres tués par an dans le monde et des milliers de milliards d'animaux aquatiques. Donc, on parle entre 1000 et 3000 milliards d'animaux aquatiques tués chaque année, pour que nous puissions nous nourrir de leur corps. Donc c'est vraiment des chiffres qui sont énormes, incommensurables presque pour l'esprit humain. Mais il y a aussi l'industrie textile qui exploite et qui tue beaucoup d'animaux, le divertissement, on a des animaux maltraités dans des zoos, dans des cirques, dans des aquariums, etc. Il y a la chasse, je pense, qui rentre dans cette question du divertissement. On tue des animaux pour nous divertir, c'est principalement un divertissement aujourd'hui, un loisir. La pêche aussi, la pêche de loisir. La corrida, les combats de coqs, les combats de chiens, l'équitation même. On peut penser à plein de choses dans le monde du divertissement qui est vraiment fondé sur l'exploitation des animaux et sur souvent de grandes souffrances pour les animaux. Le spécisme se cache aussi derrière l'expérimentation animale puisqu'on maltraite énormément d'animaux de manière qu'on n'oserait jamais le faire s'il s'agissait d'êtres humains pour le bien de la recherche scientifique.
Chaque jour, pourtant, on tue les animaux. Chaque jour, oui. On épuise les chevaux à la tâche et on jette les coqs au combat dans les cercles. On traque les renards au profond des bois et on crible les faisans de métal. On mange le lard en famille et on achève les lévriers éclopés à la course. On bat les mulets sur le long des chemins et on pêche à la mouche le dimanche. Bien peu trouvait matière à redire. On a dit la chair qu'on déchire et les noms qui déchirent la chair. On a dit la bataille qui se livre. On a donc dit l'impardonnable. Les mots, ça ne sert pas à dire le propre de chaque visage, l'unique de chaque vie, le singulier de chaque esprit. Ça sert à dire les animaux, les poissons, le bétail, la volaille ou la viande. À dire le monde en tas. Et les tas, ça n'existe pas. Joseph Andras, Ainsi nous leur faisons la guerre, 2021.
Et c'est une idéologie qui est invisible la plupart du temps.
Émilie Dardenne, maîtresse de conférences en études animales.
Parce qu'elle est tellement dominante, elle a imprégné tellement nos structures de pensée, notre système alimentaire, notre système culturel, qu'on ne se rend pas compte qu'elle existe. Mais ça, c'est aussi une propriété des systèmes dominants, de se rendre invisible pour ne pas être détecté et pour ne pas être mis en cause.
En fait, on ne voit pas que c'est un ordre culturel construit qui n'est pas sorti de nulle part, en fait, qui pourrait être autrement.
Victor Durand-Lepeuch, auteur et créateur du podcast « Comme un poisson dans l'eau ».
Un cas vraiment très éloquent de ce fonctionnement du renvoi des individus, des personnes animales à leur espèce. C'est vraiment le zoo, c'est cette institution qui catégorise finalement ces individus en fonction de leur espèce. On va voir tel animal qui est complètement interchangeable avec tel autre en fonction de son espèce. Donc ça va voir la gazelle. Et si on a vu un individu gazelle, on a vu la gazelle, c'est-à-dire l'essence de la gazelle. Enfin, alors qu'en fait, c'est comme nous. Hein. Je veux dire, si on a vu un humain, on n'a pas vu l'humain. On a vu une personne. Et c'est ça qui est complètement effacé dans le spécisme, et c'est vraiment très visible dans le fonctionnement du zoo. Il suffit d'avoir vu un animal pour avoir rencontré l'animalité.
Donc, on devient spéciste, on ne naît pas spéciste.
Sarah Zanaz.
Il y a beaucoup de recherches qui abondent dans ce sens, qui montrent que les enfants âgés de 5 à 9 ans tendent à avoir des biais spécistes moindres par rapport aux adultes. Donc, à moins considérer les animaux non humains comme des ressources, comme des êtres inférieurs, que les adultes. Donc ça semble montrer qu'on apprend à être spéciste, que c'est en fait le fruit d'un conditionnement social et d'une éducation. On nous éduque depuis un très jeune âge à considérer que c'est normal, naturel et nécessaire, pour reprendre les termes de Melanie Joy, qui est une chercheuse états-unienne, de se nourrir des animaux, d'en faire un peu ce qu'on veut, etc. Ça se retrouve dans les manuels scolaires. Hein. On a besoin de lait de vache pour avoir du calcium. C'est normal de manger des animaux, c'est ce qu'on a toujours fait, c'est la tradition. Il y a tout un conditionnement social. Souvent, les enfants rechigne plutôt à manger de la viande. C'était aussi mon cas, d'ailleurs. Ça me dégoûtait, je trouvais ça bizarre de manger d'autres animaux. Et il y a beaucoup d'enfants qui sont dans ce cas-là. Et on se rend compte qu'en fait, souvent, on apprend au fil de l'eau que c'est pas si bizarre, que c'est normal. On nous l'apprend, en fait. Donc, ça, tout ce conditionnement social qui vient des parents, qui vient de l'école, qui vient de l'entourage en général, même des pubs, du marketing, etc., ça tend à nous signifier qu'on devient spéciste plus qu'on ne naît spéciste.
Quand au quotidien on parle d'animaux, en fait c'est déjà un abus de langage, parce que
Myriam Baafou,
on nommait consciemment ou non notre propre appartenance à cette catégorie, et en dépit de la réalité de notre espèce. Parce qu'on le sait au moins depuis Darwin, nous les êtres humains faisons pleinement partie de l'évolution au sein d'autres espèces avec qui on a des liens de parenté. Et en particulier, on peut penser par exemple au grand singe, avec qui on partage pour certains jusqu'à 98% de notre ADN. Donc c'est pour ça que l'animal est considéré comme un négatif philosophique, presque ontologique, parce qu'en fait, on va finalement parler de lui uniquement pour parler plutôt que de ce que l'homme a, en fait.
Bien qu'occupant toutes deux une place dans l'embranchement des vertébrés, nous appartenons non seulement à différents genres et familles, mais également à différents ordres.
Comment mettre de l'ordre dans tout ça ? Canidé, hominidé, animal domestique, professeur, chienne, femme, animal, humain. L'une est identifiée à l'aide d'une puce électronique implantée sous le cou.
L'autre a un permis de conduire californien en guise de carte d'identité.
L'une possède des documents retraçant ses ancêtres sur 20 générations.
L'autre ignore les noms de ses grands-parents.
L'une, produit d'un vaste mélange génétique, est décrite comme pure race.
L'autre, également produit d'un vaste mélange génétique, est considérée comme blanche. Chacun de ces termes désigne un discours racial dont nous héritons toutes les deux des conséquences à même la chair.
L'une est dans la fleur de l'âge, au summum de ses capacités physiques flamboyantes.
L'autre est vigoureuse, mais déjà sur le retour.
Ces strates d'histoire, de biologie, de nature, culture, font de la complexité notre règle du jeu.
Je suis certaine que nos génomes sont plus proches qu'ils ne devraient l'être.
Qu'importe si nous sommes deux femelles infertiles, l'une en vertu de son âge, l'autre suite à une intervention chirurgicale, les codes du vivant contiennent certainement une trace moléculaire de notre contact qui laissera son empreinte dans le monde.
Nous sommes
constitutivement
des espèces compagnes.
Nous nous construisons mutuellement dans la chair. Donna Haraway, Manifeste des espèces compagnes, 2003.
Une fois qu'on a émis le constat, nous sommes tous des animaux, du point de vue biologique, cette réalité peut être vraie, factuelle. Il n'empêche que sur le plan politique, en fait, l'animalité, elle permet de montrer qu'il y a eu en fait une construction politique qui va donner un caractère inférieur à un individu sous prétexte que cet individu est plus animal, ou considéré comme plus animal.
Quand on dit les animaux, on pense aux animaux non humains. Mais nous sommes aussi des animaux nous-mêmes, nous sommes aussi des métazoaires.
Émilie Dardenne.
De préciser systématiquement les animaux non humains, les autres animaux, les animaux autres qu'humains, bah, ça permet de rappeler tout simplement où on se situe et de ne pas s'exclure de ce groupe auquel on appartient.
Et donc l'animal, c'est tout ce que l'humain ne doit pas être.
Victor Durand-Lepeuch.
C'est le contrepoint de l'humain. C'est vraiment ça le fonctionnement au cœur du spécisme, de sans cesse extraire l'humain, de se constituer humain en constituant tous les animaux comme une espèce de une masse indifférenciée.
Donc c'est tous les produits destinés à tuer notamment les rats et les souris.
Amandine Saint-Vicence, cofondatrice de l'association Paris Animaux Zoopolis.
Donc voilà, donc ça c'est le rayon où on voit de multiples produits qui servent à tuer les animaux, tout ce qui concerne les anticoagulants. Donc tout ça, c'est des appâts qu'on appelle familièrement mort aux rats qui provoquent des hémorragies internes sur plusieurs jours. Donc tout ça, et là je vérifie s'il y a des pièges à colle, sachant que c'est une enseigne qui s'est engagée à ne pas en vendre.
Comment ça fonctionne un piège à colle ?
Alors un piège à colle, c'est un dispositif où il y a dessus donc une plaque de glu, donc qui permet de coller tous les animaux qui passent par là. Donc ça peut être placé aussi bien en extérieur qu'en intérieur. Et donc par définition, ce n'est pas sélectif. Donc tous les animaux qui passent sont collés. Donc c'est à la fois, selon les études scientifiques, qui provoque une douleur extrême et à la fois qui n'est pas sélective et qui est aujourd'hui totalement légale en France.
Et qu'est-ce qu'on trouve ici, donc en dehors de ce rayon ?
Donc aujourd'hui, on est dans une jardinerie, donc d'une enseigne nationale, où donc il y a à la fois des plantes qui sont vendues, mais aussi des produits décoration pour la maison, un grand rayon pour tuer des animaux liminaires, et puis également, qu'on peut le retrouver dans des jardineries, il y a un rayon donc animalerie, où on vend des animaux vivants, dits de compagnie. Alors je précise que depuis la loi de 2021, il est interdit de vendre des chats et des chiens. Donc là où nous trouvons, il n'y a pas de chats et de chiens qui sont vendus. Mais il y a énormément d'animaux vendus, notamment beaucoup de poissons, des oiseaux, des rongeurs. Donc là, on est dans un rayon d'alimentation donc, de chats et de chiens, donc avec des croquettes, de la pâtée, tout pour les chats et chiens, quoi.
Mais à base de quoi ?
À base d'animaux, évidemment. À base d'animaux dits d'élevage, donc poulets, lapins... dinde, canard, etc. Qui bien souvent sont d'ailleurs des restes des abattoirs.
Oui, et ce qui est sur les murs, il y a marqué « Tout pour les animaux, pour le bien-être de mon animal ». Et évidemment, ce qui est frappant, c'est qu'au rez-de-chaussée, donc on a des rayons pour tuer certains animaux. Et on va retrouver en bas un endroit pour acheter des animaux qu'on va mettre chez soi et qui parfois sont les mêmes.
Non, mais c'est sûr qu'en fait, notre société catégorise des animaux entre ceux qu'on dit qu'on aime, entre ceux qu'on dit qu'on peut les manger, qu'on peut les mettre dans des cages vitrées. Enfin, il y a une catégorisation qui est faite et qui est basée sur des critères qui ne sont pas d'ordre rationnel ou scientifique, quoi. C'est vraiment culturel. Donc après, il y a les lapins. Donc là, on a un lapin bélier nain qui est donc dans une cage vitrée, une espèce de vivarium, qui est à peu près de, je sais pas moi, 1 mètre carré. Et bon, le lapin, c'est un animal très spécial, parce qu'en fait, il se retrouve dans quasiment toutes les catégories, puisqu'on le retrouve dans animaux de compagnie. Donc, c'est un animal dit domestique, selon la réglementation française, parce qu'il est issu d'élevage. Mais on a aussi des lapins sauvages, donc qu'on voit dans les forêts, qui n'ont jamais vu d'humain. On a aussi des lapins liminaires, qu'on peut retrouver en ville. Donc, les lapins sauvages et liminaires sont massivement chassés et piégés, parce qu'eux, ils dérangent. Et puis aussi, on les mange. Donc on les élève pour les manger, ils sont en cage. Donc ils sont un peu dans toutes les catégories. Ce qui pose question, c'est qu'ils sont vraiment en permanence sollicités avec de la lumière, du bruit, des vibrations. Et donc, en plus des conditions où ils ont très peu d'espace, ça peut être beaucoup de stress. Donc là, il y a l'étiquette de l'espèce. Donc on est sur Rattus norvegicus, qui est vraiment l'espèce qu'on a à Paris, en liberté, et qu'on tue. Donc ce qu'on appelle rat brun. Et donc ce qui est intéressant, c'est que les Rattus norvegicus que nous voyons ici dans cette animalerie sont tous quasiment blancs, parce qu'on a inconsciemment, enfin collectivement, l'idée que les rats bruns, pire les rats noirs, symbolisent enfin, les maladies, enfin, qu'on en a peur, etc., mais que les rats blancs, ça va. Sur la même espèce, on peut dire ce qu'on veut acheter, qu'on va aimer même, ce qu'on va tuer.
Dans les époques pas tellement éloignées, on voit dans les menus qu'on mangeait en France, par exemple, toutes sortes d'animaux, des hérissons, des cygnes, enfin, tout est comestible en réalité, tout est comestible.
Florence Burga, philosophe et autrice.
Mais ce qui évolue, c'est effectivement la palette des animaux mangeables, ce qu'on peut manger et ce qu'on ne peut pas manger. Alors la question, c'est pourquoi s'interdit-on effectivement d'en manger certains ? Les interdits religieux ont pu avancer un certain type de raisons. Des raisons d'ordre médical ou hygiénique ont pu être avancées. Mais évidemment, l'anthropologie de l'alimentation s'en est mêlée pour montrer qu'il y a aussi des raisons symboliques. Et qu'il y a, parmi celles-ci, la proximité que l'on entretient avec les animaux. Dans notre société où il n'est apparemment pas problématique de manger des agneaux, des veaux, alors que ce sont des animaux avec lesquels on pourrait tout à fait faire société, avoir des liens affectifs, nous imaginons difficilement manger les chats et les chiens. La consommation des lapins montre que sur cette espèce, nous parvenons en fait à faire coexister des contradictions. Et nous voyons combien nous avons les capacités, je dirais plus psychiques que cognitives, parce que ce n'est pas une question d'intelligence, de vivre dans la contradiction. C'est pourquoi je crois que ce concept de dissonance cognitive qu'on entend beaucoup n'a de valeur que pour celui qui réfléchit à sa vie morale. Pourquoi, dans une société où on ne mangerait pas les chats et les chiens, où ça serait considéré comme un acte pathologique et qui tomberait d'ailleurs sous le coup de la loi, pourquoi est-ce qu'on n'extrapole pas ce sentiment à des animaux qui sont eux aussi des mammifères que l'on fréquente depuis des siècles et des siècles? Bon, on sait qu'en Corée, en Chine, on mange du chien, mais il y a une région en Suisse aussi où on mange du chien. L'exemple des Anglais, qui sont vraiment nos voisins, culture très proche, il y a ce regard dégoûté porté sur les Français qui mangent des grenouilles, des escargots. Et je pense qu'en Angleterre, on ne consomme pas les chevaux non plus.
Le cheval, c'est un animal qui a déjà changé de catégorie.
Émilie Dardenne.
Parce que jusqu'au 19e siècle, c'était un animal de rente, un animal de transport agricole. Il servait pour le transport fluvial. Et puis, avec l'arrivée des transports du rail et de la voiture, ben, il a changé de statut. Il était de moins en moins utilitaire. Et il a évolué vers un statut différent. De là, se sont développés les sports équestres, les loisirs. Ça a fait évoluer son statut et la façon dont il était perçu. Ça a fait évoluer aussi le nombre de chevaux, hein, puisqu'il y en a beaucoup moins qu'avant. Mais donc, c'est déjà une évolution de catégorie qui a eu lieu. Et parce qu'il a changé de catégorie, il a aussi changé de perception en tant qu'animal consommé.
Je trouve que ça donne vraiment le vertige de voir ces murs en fait, entiers de cages vitrées avec, au total, il y aura des centaines de poissons.
Amandine Sanson.
Qui sont en fait exhibés dans des vitrines. Et en fait, on voit bien que c'est un fonds de commerce sur lequel on met des prix. Et je trouve ça vertigineux. Et ça reflète vraiment l'état dans lequel notre société en est. Et donc là, on est sur. Ça, c'est des poissons dits combattants, qui sont très, très tendance, très à la mode, où il se dit qu'ils peuvent vivre dans un verre d'eau et que voilà, ça suffit. Et donc là, il est écrit « poisson agréable ». Il existe aujourd'hui de nombreuses variétés, couleurs, formes, de nageoires. Enfin voilà, on voit qu'on est vraiment sur un objet de déco. C'est un animal qui est pratique, quoi. On le met dans un petit volume d'eau, c'est pas grave si on a... Et en fait, on oublie que c'est des animaux de sensibilité, quoi.
Ce qui frappe aussi, c'est que ces animaux ont un prix qui leur est accordé. C'est aussi quand même, l'animalerie.
C'est important. Bien sûr, tout à fait. Bien sûr, et nous, en fait, on se bat pour dire qu'il est profondément injuste de mettre le prix sur la vie d'un animal. L'interdiction du commerce sur les animaux, c'est vraiment une revendication qui est finalement, au sens propre du terme, révolutionnaire et qui changerait tout le système dans lequel on est. Puisqu'en fait, mettre un prix sur la vie d'un animal, c'est les considérer comme des objets dont on est propriétaire, puisque d'ailleurs c'est ce que dit la loi, hein. On est propriétaire d'un animal comme on est propriétaire d'un objet, etc. Et donc ça veut dire qu'on a tous les droits sur cet animal. Pouvoir vendre ou acheter des animaux, c'est la domination ultime en fait, hein, puisqu'on est propriétaire.
Ce qu'on sait, c'est que entre les débuts de la domestication et puis
Florence Burga,
évidemment l'emprise radicale, hein, qui commence par l'emprise génétique, c'est-à-dire façonner des animaux en vue d'obtenir tel ou tel produit. Donc ça, c'est l'emprise, je dirais, maximale. C'est une histoire très longue. L'animal domestiqué, il devient dépendant. Et évidemment, un être qui est dépendant, même s'il a la possibilité matérielle de fuir, en fait, il est perdu pour une vie autonome. Donc ça, c'est vraiment la mainmise absolue de la domestication. C'est-à-dire que le comportement de l'animal est modifié, on peut dire sa psychologie est modifiée. Donc il y a effectivement l'emprise matérielle, on sait construire des bâtiments, des enclos et les enfermer. Mais même si tout ça pouvait s'ouvrir, en fait, ils ne peuvent plus se débrouiller eux-mêmes. On les a rendus handicapés, en réalité.
Et en fait, il y a vraiment ce mythe de la domestication comme un contrat gagnant-gagnant.
Victor Durand-Lepeuch.
Comme un contrat mutuellement bénéfique entre humains et animaux. Il est vraiment complètement fictif, ce contrat, parce que la domestication, ça a été un processus violent d'asservissement, de sélection génétique. On sélectionnait certains bébés qui correspondaient aux critères qu'on voulait, notamment celui de la docilité, et puis on élimine les autres. Et ça, sur des milliers de générations. Et d'écrire encore aujourd'hui les relations d'élevage comme des relations mutuellement bénéfiques, alors qu'on contrôle absolument tous les aspects de leur vie et que la finalité, c'est leur mise à mort pour servir nos intérêts, et que c'est ce qui organise complètement l'institution de l'élevage. Je ne vois pas en quoi ça peut être dit au bénéfice d'individus. Et souvent, un imaginaire assez similaire qu'on retrouve à un autre mythe, c'est de dire que comme on leur a donné la vie, ils nous la doivent en fait, on a le droit de la reprendre.
Et tout animal destiné à la boucherie est né parce que le jour de sa mort est déjà programmé. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête. Les naissances, elles ne surviennent pas comme ça, même s'il n'y a pas d'insémination artificielle. C'est-à-dire qu'un animal naît à partir du moment où, dans l'agenda, tel jour, il sera tué. Donc, je dirais qu'il ne donne rien, mais qu'on lui prend ce qu'on a décidé de lui prendre en lui donnant la vie.
Le spécisme, c'est un système d'oppression fondé sur l'espèce.
Sarah Zanaz.
Pourquoi est-ce que j'utilise le terme d'oppression plutôt qu'un autre? Bon, déjà parce que ça révèle tristement le sort des animaux, puisque opprimere, en latin, ça veut dire étouffé. Et que bon, bah, malheureusement, les animaux d'élevage se retrouvent beaucoup dans cette situation, soit métaphoriquement, soit littéralement, à être étouffés, à ne plus pouvoir respirer. On peut penser à la lente agonie des poissons. Donc les animaux sont soulevés parfois par un hameçon, parfois par des filets, ce qui cause des douleurs en elles-mêmes déjà très grandes, parce que se faire soulever de tout son poids par un hameçon dans la bouche, c'est très douloureux. Le changement de pression des profondeurs jusqu'à la surface de l'eau fait que beaucoup de poissons arrivent à la surface avec des organes qui ont explosé. Puis une fois sur le bateau, pour les quelques poissons qui ont survécu, c'est une lente agonie qui commence, et selon les espèces, elle peut être plus ou moins longue. Et on n'a pas du tout ce soin d'abréger leur souffrance. Donc consommer du lait, c'est normal, consommer des œufs, c'est normal. Et peu de gens se posent la question de mais d'où ça vient finalement? Qu'est-ce que c'est? La viande, qu'est-ce que c'est? En plus, on la transforme tellement que ça devient même difficile de voir l'animal qui se cache derrière. Si vous prenez du poisson pané ou un steak, c'est tellement transformé industriellement qu'on a même du mal à faire le lien avec un animal. Donc c'est vrai que tout est fait pour invisibiliser cette question-là, et le spécisme est tellement ancré que ça en devient un phénomène naturel, normal, qu'on se pose même plus les questions de savoir mais d'où vient l'aliment que je suis en train de manger. Et tout est fait pour qu'on n'y pense pas, en fait.
On a, je crois, trop donné de place à l'invisibilité des processus en disant ben, c'est parce qu'ils sont loin de nous qu'en fait, on peut manger les animaux. On sait malheureusement qu'on s'habitue à tous les spectacles, qu'il s'agisse de la mort humaine ou de la mort animale, hein, d'ailleurs. Donc je pense qu'on s'habitue, d'une certaine manière, que si tous les jours on voyait des vidéos de mise à mort d'animaux, peut-être qu'on s'habituerait, qu'on ne verrait plus en fait, que la première fois on voit, et que c'est à ce moment-là qu'il faut prendre une décision en fait d'ordre moral, c'est-à-dire je suis choquée par ce que je vois, est-ce que je veux continuer à participer à ça ?
On va regarder les images que vous avez tournées à l'époque et que vous m'avez envoyées, d'ailleurs qu'on peut voir sur Internet.
Donc là, c'est la machine qui sert à détecter les œufs qui vont être fécondés ou non.
Clément.
On a plein d'œufs qui arrivent des élevages reproducteurs, qui sont censés être fécondés, bon, il y a forcément des ratés. Du coup, la machine, elle les scanne. Elle est capable d'identifier avec quand même beaucoup de certitude ceux qui vont être fécondés ou non. Donc moi, je suis arrivé dans ce milieu-là juste par des petits boulots d'été.
Et c'était quoi, en fait, ce poste ?
C'était employé de couvoir, si je me rappelle de la dénomination. Mais enfin, bon, c'est un intitulé qui laisse pas du tout transparaître ce que c'est le métier, en fait. Voilà, c'est moi qui trie des poussins. Je pense qu'il y a une autre personne avec moi en face. Et donc là, on voit des caisses avec beaucoup de poussins qui arrivent au milieu des coquilles d'œufs. Donc la plupart sont éclos. Le couvoir va avoir des commandes de différentes entreprises, de différents élevages. Ils vont lui dire, j'ai besoin de X 1000 poussins de telle race, telle espèce, avec telle caractéristique. Moi, je fais plutôt des poulets de chair. Moi, je fais plutôt des poules pondeuses. Et généralement, voilà, ils ont pas mal d'options. Et après, il y a la question des poules pondeuses, où en effet, on fait naître tout un tas de poussins, mais les poules pondeuses, c'est que des femelles, donc on se retrouve avec plein de mâles, donc on ne sait pas quoi faire. Comme c'est pas la même souche que les poulets de chair, c'est pas du tout rentable de les élever pour la viande. Et du coup, oui, on les broie. Et il y a une personne en fait qui gère le broyeur derrière.
En effet, on n'a plus aucun rapport,
Florence Burga,
avec ces animaux qui se trouvent être élevés, transportés, tués et mis en sachet par d'autres. C'est à l'heure actuelle, où nous n'avons jamais eu autant de connaissances sur la nutrition, que nous n'avons jamais eu autant de moyens de recourir à autre chose que l'alimentation carnée, que s'est développée une massification de l'élevage, de la pêche, de la chasse aussi. Cette hyperconsommation carnée, elle date, disons, des années 1960, en tout cas pour ce qui concerne l'Occident.
Et là, on voit un sac poubelle. Pourquoi ?
Ça, c'est quelque chose qu'on m'a demandé, moi et un autre intermédiaire, de faire. On verse des caisses de poussins dans des sacs poubelles. Je ne sais pas vraiment à quel usage, mais en tout cas, l'idée, c'est juste de les étouffer. Ils vont mourir comme ça, ce qui est vraiment affreux. On a des centaines de poussins déversés dans un seul sac. Donc là, on voit la vidéo, un des employés qui montre comment faire. Vraiment, il écrase le sac pour qu'il n'y ait plus d'air. Et voilà, le souvenir du sac poubelle qui bouge encore une fois qu'on l'a fermé, c'est dur à oublier.
On est frappé de voir que, à l'intérieur même d'un discours de séparation radicale entre l'humain et les animaux, surgit tout à coup, pour légitimer l'alimentation, je dirais, zoocarnée, le fait de manger donc les animaux, surgit cet argument selon lequel, après tout, l'homme est un prédateur comme les autres. Donc il faudrait savoir, c'est-à-dire que soit on naturalise radicalement l'humain, c'est un prédateur comme un autre, il n'a pas la capacité de réfléchir à ses actions, mais cela entre quand même en contradiction radicale avec le fait qu'on édifie une morale, mais aussi le droit qui interdit de faire certaines choses. De fait, ils sont des carnivores puisqu'ils consomment en effet de la chair animale, mais physiologiquement, ils sont des omnivores, ce qui signifie qu'ils ont la chance de pouvoir adopter toutes sortes de régimes. L'humain pourrait choisir un régime qui l'écarte radicalement de la violence envers les animaux. Pourquoi on est tellement accroché à ça, en fait ? Il y a comme une relation malade aux animaux. Pourquoi veut-on faire perdurer cela ?
Si on commence à penser aux animaux, on s'en sort pas, en fait. J'ai bien vu que les animaux, c'était des objets, là-bas. C'est évident, le nombre qu'on manipule, comment on les trie. On a forcément, de temps en temps, un poussin ou deux qui vont tomber par terre. Et en fait, en fin de matinée, on va nettoyer toute la salle. Au jet, on passe le balai, etc. On a des poussins qui sont par terre, parfois, qui sont pas forcément super en forme, du coup. Et vraiment, c'est des poussins, on les prend à la balayette, on les met dans le seau, puis ça part la broyeuse, quoi. Enfin, et on a besoin de ce détachement-là pour travailler dans ce milieu-là. Enfin, c'est un détachement qui est tellement automatique qu'ils ne se rendent même plus compte. Les animaux ne sont pas vraiment vus comme des individus. Et on a une espèce de double standard, vraiment. Je me rappelle dans un autre couvoir où j'ai travaillé, là c'était pour le foie gras, où vraiment, concrètement, on passe nos fins de matinée à broyer des canetons femelles. Et à la pause de midi, on a des gens qui parlent de leur chat. Oui, mais ça me fait mal au cœur quand même quand ils sortent dans le jardin et qu'ils tuent des oiseaux. Et waouh, enfin, j'étais vraiment sonné. Enfin, je trouvais ça vraiment frappant de voir le double standard qu'on peut appliquer aux animaux et que voilà, la petite mésange sur la terrasse, c'est ok, mais vraiment les canetons qu'on broie par milliers tous les matins, bon, on n'y pense même pas. Très rapidement, je me suis dit, mais où c'est que je suis tombé? Je n'imaginais pas l'ampleur du désastre. J'étais au courant qu'on tuait des animaux pour se nourrir, mais c'est une chose de le savoir, c'est une autre chose de voir un truc pareil. Et du coup, j'ai contacté L214, en fait, et très rapidement, ils sont revenus vers moi et ils m'ont fourni du matériel pour filmer. En fait, une fois que j'ai décidé que j'allais filmer, j'étais là pour filmer. J'étais pas là pour m'occuper des poussins, j'étais pas là pour penser à ce que les animaux vivaient. On a effectivement le poussin, donc, qui est vraiment l'archétype de l'animal mignon pour tout le monde, qui se retrouve en fait traité comme un déchet. C'est quelque chose quand même de voir que d'un côté, on va déverser je sais pas combien de petits animaux tout jaunes, tout mignons dans une espèce de benne, et que de l'autre côté, ce qui ressort, c'est une espèce de bouillie toute rouge où on distingue à peine les pattes, quoi.
Qu'est-ce qui s'est passé après la diffusion de ces images ?
Ça a été quand même un gros pavé dans la mare. C'est la première fois que c'est vraiment sorti dans les médias pour le grand public. Et du coup, c'est quand même remonté jusqu'à la sphère politique. Et aujourd'hui, on est sur une interdiction partielle du broyage qui est en train d'être mise en place. Il y a des choses qui ont été discutées à l'Assemblée nationale. Pour moi, c'était un peu l'aboutissement de quelque chose de très difficile que j'avais fait. Je sais que quand moi je suis revenu chez moi, j'ai fondu en larmes, quoi. Enfin, c'était... Et pendant très longtemps. Pendant très longtemps, j'en ai fait des cauchemars. Non, c'était difficile, quoi.
Je pense effectivement qu'aujourd'hui, je vais jusqu'à dire que on mange de la viande pour continuer à tuer les animaux, puisque tout le monde réprouve cet élevage, même les carnivores qui disent « ah bah oui, c'est monstrueux ». Il y a Scanetti qui a beaucoup écrit sur les animaux, parle à un moment donné de la joie du survivant. Et je crois que c'est fondamental, c'est-à-dire celui qui est mort sur la table, dans le corps duquel on va tous planter notre fourchette, et bah c'est lui qui est mort et c'est pas moi. On a tous ça à l'intérieur de nous.
Sous l'épicéa, dans la fine couche de givre, il restait l'empreinte d'un corps qui s'y était posé la nuit. Celle d'un grand cerf devenu mulet, que l'absence du poids de sa ramure tombée déconcertait. On dit que les cerfs sont parfois tellement troublés par la chute de leur bois qu'ils s'isolent du clan. Je me suis couchée à même l'empreinte sur mes jambes repliées. Je voulais ressentir la perte, vivre avec la perte, porter ma tête comme si toute sa montée osseuse, tout son travail de l'année passée, chapitre après chapitre, était devenu inutile, était tombé. Ce genre de méditation est assez vertigineux. On est vite pris d'une sorte d'ivresse, celle du vide, de faire le vide. Tout y passe, jusqu'à notre statut d'humain. Dans un vertige de décentrement, j'ai su, soudain, avec clarté, que nous n'avions pas de destin singulier. Et pourquoi en aurions-nous un ? Parce que nous construisons des mairies, des cathédrales ou des musées ? Parce que nous écrivons des romans ? Parce que nous savons affamer, torturer, massacrer plus qu'aucune autre espèce ? Parce que nous avons des cimetières et des charniers ? Parce que nous savons tout détruire si magnifiquement ? Non, ça ne suffit pas. Comme les bêtes, nous devons tout lâcher, simplement, sans au-delà. Je me suis encore gratté le cou. J'ai tourné une oreille, une autre, pour écouter le versant animal. Mais plus fort que moi, c'était le grondement de l'abîme qui se faisait entendre au loin, en bruit de fond. l'angoisse humaine. Claudie Hunzinger, Les Grands Cerfs, 2019.
C'est souvent ce qu'on reproche aux antispécistes, c'est une accusation en anthropomorphisme.
Sarah Zanaz.
Donc l'idée selon laquelle on donnerait aux autres animaux des caractéristiques proprement humaines, et que ce serait donc erroné. Et c'est vrai que ça peut arriver. Par contre, c'est pas du tout ce qui a dominé dans l'histoire des sciences et dans l'histoire de la philosophie. Ce qu'on a plutôt eu tendance à faire, c'est ce que Franz De Waal, qui est un éthologue, appelle l'anthropodéni. C'est le contraire de l'anthropomorphisme. Et c'est le fait de nier constamment aux autres animaux des caractéristiques qu'on voudrait absolument se garder pour nous tout seuls, en tant qu'humains et humaines. Il y a une anecdote qui revient souvent en philo. C'est l'anecdote qui raconte que Malebranche, qui est un des disciples de Descartes, aurait, devant un amphithéâtre rempli d'étudiants, frappé une chienne enceinte et, en entendant ses cris de douleur, aurait affirmé que cela crie, mais cela ne ressent pas. Donc, en gros, son idée, c'était que les animaux peuvent crier parfois, peuvent exprimer quelque chose qui ressemblerait à de la douleur, mais il faudrait surtout pas le prendre comme ça, parce que c'est juste un automatisme comme une porte qui grince, une roue qui grince. Ça ne dit rien de leur expérience subjective. On pourrait penser que l'antispécisme ou la préoccupation pour les animaux est une chose très récente, ou à la mode, on entend beaucoup ça. Mais en fait, ce sont des préoccupations qui remontent à vraiment très longtemps, aussi longtemps que la philosophie existe. Il y a des philosophes antiques, hein. Je pense notamment à Pythagore. On peut retrouver ses propos dans les écrits de ses contemporains, notamment Ovide, qui dans les Métamorphoses. Donc il lui fait dire la chose suivante. « Abstenez-vous, mortels, de profaner vos corps avec des banquets impies. Il y a des récoltes, il y a des fruits qui font tomber les branches de leur poids et des raisins gonflés sur les vignes. Il y a des herbes douces, il y a celles qui, avec la flamme, peuvent mûrir et s'adoucir. La terre généreuse vous fournit des richesses et des aliments mûrs et vous offre des mets délicats, sans abattage et sans sang. Hélas, quel grand crime que les entrailles s'enfoncent dans les entrailles et que dans un corps vorace s'engraisse l'entassement des corps et qu'un être animé vive grâce à la mort d'un autre être animé. Assurément, parmi tant de ressources que la terre, la meilleure des mères, produit, rien ne vous plaît que de mâcher avec une dent cruelle de tristes blessures et de reproduire les habitudes des cyclopes. »
Plutarque, 1er siècle de notre ère, ou Porphyre, 4e siècle de notre ère,
Florence Burgard,
ont laissé des écrits, toujours d'actualité aujourd'hui, pour mettre en question cette violence de la consommation carnée qui est appelée le meurtre alimentaire. Ce qui est effectivement une formule très forte qui donne à penser. On peut penser, je vais de siècle en siècle involontairement, à Schopenhauer au 19e, puis au 20e siècle, là évidemment on a une foison de penseurs, des militants ou même des militantes politiques, Séverine, Louise Michel, Tolstoï, et depuis que les chercheurs se sont tournés vers la question animale, ils ont d'une certaine manière exhumé tous ces philosophes pour montrer que, même s'il y a bien sûr une pensée dominante qui n'est pas celle de la mise en question de la violence des humains envers les animaux, cependant, elle a cheminé d'âge en âge dans l'histoire de la philosophie.
On a Bentham en Angleterre, en 1789, qui écrit via cette phrase qui est très connue. Nous ne devrions pas demander « peuvent-ils raisonner ?» ni « peuvent-ils parler ?» mais « peuvent-ils souffrir ?» Donc ici aussi avec Bentham, on a cette même idée de mettre en avant pas la rationalité, pas la connaissance de la mort, pas le langage, tous ces critères qui ont été avancés dans l'histoire de la philosophie pour justifier une supériorité humaine par rapport aux autres animaux, mais de mettre en avant autre chose, qui est donc la capacité à ressentir des choses, à souffrir. Donc la sentience, ce que ça permet de dire, c'est que ce qui importe dans la manière dont on va traiter un être, c'est sa capacité à être affecté positivement ou négativement par ce qu'on va lui faire subir. Par exemple, si je prends une pierre et que je la jette par-dessus une falaise, on va dire, à moins qu'elle tombe sur la tête d'un individu sentient, et là je fais effectivement du mal, pour le caillou il se passe rien, parce que le caillou ne ressent rien. À l'inverse, un animal sentient, si je le frappe, il va être affecté négativement par cet acte. Il va en souffrir. Donc il y a un lien entre la manière dont je le traite et ce qui va arriver pour lui. C'est exactement ça l'argument antispéciste, c'est de dire les animaux non humains sentients méritent qu'on les considère moralement parce que la manière dont on les traite va potentiellement les affecter négativement. Donc on arrive à la conclusion que tous les animaux sentients doivent être considérés moralement, qu'on doit les traiter de la même manière. Ça inclut de bien traiter les humains, parce que nous sommes sentients, sentientes, et ça inclut de traiter tous les autres êtres sentients. Aujourd'hui, l'état des sciences nous indique que les mammifères sont sentients, les oiseaux sont tous sentients, les poissons. On a de bonnes raisons de penser que les céphalopodes sont aussi sentients, donc les pieuvres, les seiches, les calmars. La question est en suspens pour les insectes. Il y a certaines espèces dont on sait qu'elles sont probablement sentientes, c'est le cas des drosophiles notamment, donc les mouches. C'est le cas aussi des abeilles. Par contre, on sait que, par exemple, les moules et les huîtres sont probablement pas sentientes.
Moi, ce qui me plaisait depuis le lycée, c'est la biologie, et surtout la biologie animale, parce que c'était un moyen pour moi de comprendre mon propre corps et son fonctionnement.
Élodie Merlot, chercheuse à l'INRA, Institut National de la Recherche Agronomique pour l'Alimentation et l'Environnement.
Le contrôle de ma fonction reproductive, comment fonctionne mon cerveau, voilà. Donc je voulais faire de la biologie, et puis je suis arrivée dans une école d'ingénieurs agronomes, donc j'ai découvert l'agronomie comme ça. J'ai continué à faire de la biologie en faisant une thèse à la fin de mon école d'agronomie qui s'intéressait aux effets du stress sur la fonction immunitaire, donc les interactions entre le cerveau et le système immunitaire, comment ces deux organes communiquent et s'influencent l'un l'autre. Et après cette thèse, j'ai été recrutée à INRAE pour travailler sur le même sujet, mais cette fois-ci appliqué aux animaux d'élevage. Dès que je suis arrivée au labo, je me suis rendu compte que ces animaux, à la fin de mes expés, on s'en débarrassait. Enfin, où on avait besoin de les tuer pour faire les mesures qu'on avait à réaliser. C'était sur des souris pendant ma thèse. C'était mon directeur de thèse qui le faisait, qui s'en chargeait. Il nous apportait l'animal déjà sans tête, enfin déjà chosifié, c'est déjà plus facile. Et moi, je ne le voyais pas faire, il était de dos. Et je ne cherchais pas à aller voir. Et à la fin de ma thèse, je me souviens d'avoir essayé de faire le calcul du nombre d'animaux qu'on avait utilisés pendant ces 3 années pour mes recherches. Et c'est un chiffre que je ne serais pas capable de vous dire maintenant parce que je me suis empressée de l'oublier tellement il m'a mis mal à l'aise.
Il y a un fort impérialisme ou suprémacisme humain.
Sarah Zanaz.
Donc le fait qu'on considère systématiquement que les humains sont supérieurs à tous les autres animaux et que la manière de vivre des humains est la bonne, que la manière de ressentir des humains est la bonne, que la manière de vivre subjectivement des choses des humains est la bonne. Donc le fait de mettre en fait les humains comme mesure de toute chose. Quand on s'intéresse à l'intelligence des autres animaux, on se rend compte qu'on teste souvent leur intelligence par des biais qui sont vraiment des biais humains. Est-ce qu'ils savent chanter? Est-ce qu'ils savent dessiner? Est-ce qu'ils savent compter? Est-ce qu'ils savent lire? Tout ça, c'est des caractéristiques, c'est des capacités qui sont humaines et qui... C'est pas parce qu'on sait compter qu'on est intelligent. Et surtout, d'autres animaux ont des manières d'exprimer leur intelligence qui dépendent pas de ces critères qui sont humains. Peut-être qu'ils savent pas compter, mais ils savent faire plein de choses que les humains ne savent pas faire. Je pense à l'araignée, par exemple, qui sait tisser une toile de manière dont on serait bien incapable de reproduire et qui le fait avec une aisance folle. Ou des chauves-souris qui sont capables de se représenter par l'écholocation. Donc, qui ont une capacité que les humains n'avons pas pour se situer dans l'espace et se mouvoir de manière organisée. Les humains sommes incapables d'écholocation.
Quand je suis rentrée dans le monde de la recherche, à la fin de mes études d'ingénieur agro, je suis arrivée dans un labo faire de la recherche sur des souris.
Élodie Merlot.
Et là, mon maître de stage m'a dit l'expé, elle va être faite comme ça, comme ça, comme ça. Tes souris, on les a commandées, elles arrivent demain. C'est des souris mâles. Et donc, je lui ai demandé pourquoi pas des souris mâles et femelles. Et donc, il m'a dit, les femelles, c'est le bazar. Les femelles, ça a des cycles hormonaux. Si on travaille avec des femelles, elles vont toutes être à des stades différents de leur cycle hormonal. Le cycle hormonal, ça influence ensuite le fonctionnement de toute la physiologie de l'animal. Pas que l'axe reproducteur, mais ses émotions. enfin tout. Donc c'est ingérable. Travailler sur les femelles, on a une variabilité qui fait qu'il faudra utiliser deux fois, trois fois plus d'animaux pour observer les mêmes choses. Donc moi, je ne travaille que sur les mâles, parce que les mâles, il n'y a pas de cycle hormonal, c'est stable, c'est toujours pareil. Et donc moi, qui voulais faire de la biologie pour comprendre mon propre corps, je me suis retrouvée à faire une expé sur des souris où déjà, il n'y avait pas de femelles. Et moi, je suis une femelle. Donc ça m'a un petit peu interrogée. Et puis par la suite, plus tard aussi, un certain nombre de fois, je me suis retrouvée à constater que souvent mes collègues de sexe masculin choisissaient de travailler sur des porcelets de sexe mâle. On a quand même une connaissance en biologie qui est souvent meilleure pour les individus de sexe masculin, et ça, ça me froisse beaucoup. Alors en agronomie, c'est un peu l'inverse, par contre, parce qu'en agronomie, on s'intéresse aux animaux qui produisent des œufs, aux animaux qui produisent du lait, et donc on s'intéresse beaucoup aux animaux femelles, et on s'intéresse aux animaux femelles pour encore mieux contrôler la fonction de reproduction ou la fonction de lactation, et donc encore mieux contrôler le corps des femelles.
À quoi ça sert ? Ce que vous faites ?
Bah, ça sert à mieux comprendre comment ça marche, à oui, pour moi au départ c'était surtout de la compréhension. Se dire que quand on est stressé, on tombe malade, c'est pas juste une croyance, c'est une réalité. Il y a des mécanismes biologiques qu'on a décortiqués, qu'on a identifiés et qui montrent que vraiment le cerveau influence le système immunitaire. Et donc finalement, ce qu'on nous demande de faire, c'est de trouver des solutions pour réduire un certain nombre de souffrances ou d'inconforts imposés à nos animaux d'élevage. J'ai pas réfléchi tout de suite, j'étais jeune et naïve, et puis plus le temps passe, plus j'y réfléchis. Je pense que jusqu'ici, j'ai pas tant travaillé sur le bien-être animal, mais plus sur le mal-être animal, parce qu'en élevage intensif, en tout cas, il y a quand même beaucoup de mal-être animal. Au bout d'un moment, je me suis dit, je veux plus stresser mes animaux, c'est trop dur. Je me suis dit que je tuerais plus d'animaux, que j'essaierais de faire de l'expérimentation qui se passait de cet acte-là. Donc je les mets dans des conditions plutôt améliorées, et malgré tout, je trouve ça encore trop dur. Même la prise de sang, dans l'espèce porcine, c'est difficile une prise de sang. C'est une espèce qui a une peau épaisse avec du lard, donc tous les vaisseaux sanguins ils sont assez cachés. Et donc pour y accéder, pour faire une prise de sang, il y a une contention, donc il faut attraper l'animal, le contenir, ça lui fait mal, ça lui fait peur. Pendant les expés, on revient plusieurs fois, faire des prélèvements de salive, des pesées, mesurer un certain nombre de choses, faire un tout petit peu d'observation comportementale aussi parfois. Et donc on constate leur individualité. On les voit éviter des choses, ou au contraire rechercher à tout prix à obtenir certaines choses quand on est là. Et oui, forcément, ça génère une forme de lien. À partir du moment où on sait qu'on travaille sur des animaux sentients, intelligents, quand on a reconnu le continuum de leur espèce à la nôtre, et que donc il y a probablement un continuum dans les émotions qu'ils sont capables de ressentir, même si c'est peut-être pas exactement les mêmes que nous. Et donc on a beaucoup d'empathie pour eux. Et pourtant, on continue à faire de l'expérimentation animale. Je continue à faire un peu d'expérimentation animale, même si je réduis de plus en plus. Je continue à manger de la viande aussi. Et je reconnais qu'il y a un paradoxe.
Les individus sont spécistes, c'est sûr et certain. Beaucoup d'individus sont spécistes. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont spécistes ? Pourquoi est-ce qu'autant de gens sont spécistes ? À travers le temps et l'espace. C'est une structure sociale, un rapport de domination structuré socialement, organisé socialement, bien orchestré, qui rend l'exploitation animale si pérenne et si puissante, en fait.
Donc c'est vrai que là, maintenant, j'en suis arrivée à un point où j'ai pas envie de quitter l'INRA, parce que j'aime encore mon métier de chercheuse, mais j'aimerais trouver un moyen de ne plus faire d'expérimentation animale du tout. Je pense qu'il y a des questions auxquelles on peut pas répondre sans faire de l'expérimentation animale. Mais après, il faut se demander si ces questions valent vraiment la chandelle. Quand c'est vraiment savoir pour savoir, produire un tout petit peu plus de connaissances fondamentales, des fois, ça va révolutionner notre façon de voir le vivant et ça en valait la peine. Des fois, si c'est des petits détails, peut-être qu'on n'a pas besoin de savoir ces petits détails-là. Et ça, c'est très chercheur dépendant. Et c'est difficile d'aller voir un collègue et de lui dire « Franchement, ce sur quoi tu travailles, on n'en a pas besoin, arrête. » Enfin, il le prendrait très mal.
Donc si je parle de spécisme systémique, c'est justement pour faire la lumière sur le fait que les individus sont spécistes, certes, mais ils sont spécistes parce qu'ils vivent dans un système qui le leur permet et qui le rend normal. Parce que c'est beaucoup plus facile aujourd'hui d'être spéciste dans la société que d'être antispéciste.
Si, à force de chercher, il n'y a rien qui nous permet absolument de constater cette supériorité, et que quand on regarde finalement par rapport à plein de critères, on voit que des différences entre des individus, et il y a plein d'autres animaux qui ont des facultés incroyables dont on n'est pas capable, et juste on retient celles qui nous placent au-dessus des autres, bien opportunément. Parce qu'on veut continuer à alimenter ce récit de l'humain est supérieur en tout point et en toute chose, et de toute façon, de façon essentielle, naturelle, l'humain est censé être supérieur. Mais en fait, on peut très bien reconnaître la variété de ces différences et dire « et alors ?» Pourquoi est-ce que vous en déduisez qu'on a le droit de maltraiter un individu qui est d'une autre espèce ou qui n'aurait pas ses facultés sous ce prétexte ? Et en fait, c'est, l'abolitionnisme, c'est la revendication finalement des antispécistes de dire que les institutions de pouvoir et de violence infligées aux autres animaux doivent être abolies parce qu'elles sont injustes et qu'il faut donc y mettre fin. Donc l'idée de l'abolitionnisme, c'est de dire qu'il faut sortir de ce rapport de domination en fait, des humains sur les autres animaux. Et donc c'est ça notre horizon politique, a priori, l'abolition du spécisme. Donc ça, c'est un objectif politique très clair pour l'antispécisme, c'est-à-dire pour le projet d'égalité avec les autres animaux.
On a décidé aussi de travailler avec les animaux parce qu'on aime les animaux. Et donc là aussi, c'est un des paradoxes de l'expérimentation animale. Moi, je sais que quand je vais voir les cochons à l'élevage et pour des prélèvements, des mesures, quand je dis prélèvements, ça va être des prélèvements de salive, où on leur tend un petit coton, on leur demande de mâchouiller le coton pour doser des hormones dans la salive ou pour les peser. C'est un moment qui est très agréable parce que j'aime être au contact de ces animaux, même si l'élevage est tristounet, il ressemble à un élevage classique. C'est pas un cadre très joyeux, mais l'interaction avec les animaux est agréable. Ils me font rire, on a des interactions positives, on en caresse certains. Voilà, donc c'est des moments agréables. Et puis après, il y a les moments où c'est beaucoup plus violent pour les animaux. Quelques protocoles des fois, effectivement, où il y a aussi la mort de l'animal à la fin. Et là, c'est beaucoup plus... Enfin, là, pour le coup, c'est des moments difficiles. Où moi, dans ma tête, je m'excuse auprès de l'animal. Je suis désolée qu'on te fasse ça. Voilà, ça sert à rien, mais on peut pas s'empêcher de se le dire dans la tête. Excuse-moi.
Le monde après le spécisme, en finir avec l'oppression des animaux. Une série documentaire de Pauline Chanu, réalisée par Clémence Gross. Avec Marie-Claude Marcelier, Myriam Bahafou, Sarah Zanaz, Amandine Saint-Vicence, Émilie Dardenne, Élodie Merlot, Victor Durand-Lepeuche, Florence Burga et Clément. Lecture, Mélissa Barbeau et Chiara Zerlini. Prise de son, Romain Lequince, Mineta Diawara et François Saint-Jour. Mixage, Claire Levasseur. Documentation musicale, Antoine Vuilloz. Documentation, Annie Signoret et Hervé Evano. Illustration, Anaïs Isbert. Collaboration, Iris Pessarossi. Merci à Evelyne Lost, Linda Chavinskaya et Brian Favre. Chargée de programme, Marie-Vonne Abolivier et Anaï Morales. Coordination, Emmanuel Laurentin. Les pages web, c'est sur franceculture.fr et le podcast sur l'application Radio France. À suivre, épisode 2, Ouvrir les yeux, sortir du déni. Alors, quoi ?